Bonjour, bienvenue à Marcouville dans le cadre du projet Quartier en Onde en compagnie de la Sauvegarde 95, la radio RGB et l'association Art et Muse. Ce soir, en compagnie de jeunes qui fréquentent la structure, nous allons débattre sur un sujet qui est notamment sur l'histoire de Colin Kaepernick aux États-Unis. On a vu juste en amont un petit film documentaire que Benjamin, ici présent, résumera dans quelques instants. Puis après, on discutera, on échangera sur ce qu'on a vu. On vous donnera peut-être aussi l'envie ou l'idée d'en savoir plus sur ce personnage, ce combat. Benjamin, bonjour.
Bonjour.
Donc tu es éducateur à la Sauvegarde 95. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film et de ce choix ?
Alors oui, dans le cadre du projet Quartier en Onde avec les différents partenaires, on a décidé de tester une petite soirée débat avec quelques jeunes de Marcouville et de l'agglomération sur un sujet que nous avons choisi entre éducateurs. Donc on avait choisi l'histoire d'un homme assez récente, donc de Colin Kaepernick, un footballeur américain, qui en 2016 s'est exprimé concernant les violences policières aux États-Unis qui ont fait l'actualité surtout à ce moment-là. Et donc comme c'est un sujet qui reste toujours d'actualité un petit peu dans ce pays-là et qui peut parfois aussi toucher certaines personnes en France, on trouvait ça un petit peu intéressant de parler de cet homme-là, des paroles qu'il a prises, de sa prise de position, pour défendre un petit peu les droits de certains citoyens aux États-Unis.
Donc le fait du match, mais oui, c'est le fait du match en fin de compte. Pendant l'hymne national, il a mis un genou à terre, ce qui a créé énormément de clivages envers l'institution qu'est la NFL, envers les spectateurs, envers les téléspectateurs et envers la société américaine en général.
Alors voilà, oui, je crois que c'est quelqu'un du coup qui est très conscient dans le monde dans lequel il vit, c'est-à-dire que l'histoire est faite de symboles, surtout dans le sport. C'est des images qui restent, notamment, je pense que même si vous ne connaissez pas les dates ou les lieux, tout le monde voit les deux athlètes américains avec leurs gants noirs levés au JO de Mexico sur le podium, ou encore connaît l'histoire de Jesse Owen au JO de Berlin. Et donc cet athlète a choisi justement le moment de l'hymne national avant le tout match américain de football pour mettre un genou à terre afin de protester contre ces violences policières. L'idée, c'était d'envoyer un symbole fort, de marquer ce moment-là. Et ça a été très vite contagieux. Il a été suivi vite par d'autres athlètes. Et c'est un sujet qui a profondément, on le voit dans la vidéo d'ailleurs qu'on a montré, divisé la population américaine sur ce sujet-là. Et qui l'a mis du coup en porte-à-faux vis-à-vis de son club, vis-à-vis de la ligue dans laquelle il travaille, il joue. Il faut savoir que du coup la ligue, les propriétaires de clubs, c'est surtout des personnes blanches, comme on aime les appeler aux États-Unis, puisque ils parlent beaucoup en ces termes. C'est un lobby assez fort, et du coup le fait que un joueur prenne une position politique dans le sport, ce qui est rare, a fait beaucoup de vagues et il en a subi les conséquences ensuite. Et ce qu'il faut savoir du coup, c'est que dans ces ligues, les athlètes qui jouent sont en majorité afro-américaines. D'origine afro-américaine, ce qui est le contraire par exemple du hockey ou du basketball où c'est beaucoup plus mélangé. Mais par contre, justement, l'argent, les propriétaires, etc., c'est voilà, aux mains d'autres personnes. Et comme je le disais, à la fois que ça soit en France ou aux États-Unis, c'est quand même très rare que des personnes comme ça, même parfois des artistes, prennent des positions politiques. Donc, vous allez pouvoir nous raconter un petit peu ce que ça vous a évoqué.
On va peut-être faire un tour de table de tous les participants qui sont là, juste votre prénom pour l'instant.
Moi c'est Awa, Djenebou, Mariam,
Mina.
Moi c'est Ismaël.
Moi c'est Théo.
Assa.
Céline.
Alors, qui veut prendre la parole et qui veut s'exprimer sur...
Alors, je respecte ces idées face aux violences policières faites aux jeunes citoyens afro-américains aux États-Unis. Mais je trouve que c'était très courageux de sa part d'avoir fait ça publiquement. Je pense qu'il aurait dû prendre plus d'initiatives, par exemple, en le faisant lors d'une interview ou quelque chose comme ça, parce que là, il l'a fait directement en direct devant plusieurs millions de spectateurs, de supporters. Et ça a dû être un peu brutal pour l'Amérique et les équipes, enfin les personnes concernées. Et ça n'a pas été avantageux pour lui parce que ça s'est quand même retourné sur lui. À cause de ça, il y a eu des conséquences. Il n'a plus d'équipe, il n'y a plus personne qui veut le recruter. Et ça s'est vraiment propagé dans plusieurs clubs. Donc il aurait juste dû prendre plus d'initiatives que de le faire brutalement comme ça.
Moi, ce que je pense par rapport à cette action que ces joueurs ont fait, en fait, j'approuve totalement ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et qui sont cachées, que, voilà, que la politique cache aussi par rapport au racisme, tout ça. Et je pense que ce joueur, il a vraiment bien fait de se mettre un genou à terre pour dire qu'il est totalement contre le racisme, tout ça. Du coup, bon, moi, j'approuve totalement ce qu'il a fait.
Bonsoir, donc moi, c'est Humbert, donc je suis le collègue de Benjamin. Et pour revenir à cet événement du genou à terre, j'ai envie de dire que cette action, c'est une forme de courage militant. Voilà. C'est, tout à l'heure, mon collègue disait que le sport était véhiculé aussi à travers des symboles. Et à travers l'histoire, pour faire changer les choses, c'est vrai qu'on ne peut réaliser que la gravité des choses qu'à travers une fenêtre qui est exposée à travers le monde. Et quelle fenêtre meilleure finalement que le sport qui fédère tout le monde? Et comment faire passer des messages à ce moment-là précisément? Donc est-ce que c'est le lieu justement dans des événements sportifs de faire passer ces messages? Je pense que si on développe l'idée, je pense que oui, si le sport même et en lui-même est un message de rencontre, il faut que cette vitrine puisse permettre aussi de se rendre compte des problèmes réels dans le monde et pas uniquement sur l'aspect du divertissement. Voilà. Et que cette action de genou à terre, moi, ça me rappelle exactement ce que disait Benjamin tout à l'heure. Sur les Jeux Olympiques de Berlin, avec le point de gants noirs levé des Américains pendant l'hymne national, magnifique, un grand moment d'anthologie. À cette époque-là, c'était une forme de courage. Si on transpose cette histoire à aujourd'hui, on est à peu près dans ces formes de courage-là. Et c'est là-dessus qu'il faut développer les choses.
Bah, je suis d'accord aussi avec ce qu'il a fait. Donc oui, c'est un message fort. Après, ce que je ne comprends pas, ce sont les réactions des supporters, du public, etc. Dans le fait que ce soit un manque de respect envers le drapeau. Je ne vois pas en quoi ce sera un manque de respect qu'une personne, donc un citoyen américain, qui vit, qui parle, qui se prononce en Amérique, ait un manque de respect envers son propre drapeau. Il a juste énoncé son idée en tant que citoyen afro-américain. Il a juste énoncé son idée sur le fait que les forces de l'ordre dans les rues aux États-Unis n'aient pas forcément assez de tolérance par rapport aux différences. Oui, il a totalement raison. Après, je suis d'accord sur ce que Mina a dit au départ. Il aurait peut-être dû, oui, en parler dans les médias pour essayer, pour au moins... Enfin, il l'a fait, mais après. Peut-être déjà énoncer l'idée que, voilà, il voulait... Il voulait envoyer un message, enfin, comme quelqu'un, je ne sais pas, on va à la radio, la personne a une idée en tête, que ce soit politique ou un joueur comme Kaepernick. Il aurait peut-être dû énoncer l'idée et après, si il voit que ça n'a pas assez d'ampleur, faire le geste qu'il a fait, donc mettre le genou au sol. Là, peut-être oui, que le genou au sol était peut-être trop direct sur le coup. Mais c'est vrai que le fait que ce soit direct ait un impact fort, encore plus fort.
Juste pour expliquer 30 secondes ce qu'il faut comprendre par rapport à ta réflexion, qui est hyper intéressante, c'est qu'on n'a pas du tout ici en France, et même je pense dans la plupart des pays européens, de ce que je peux voir, on n'a pas du tout le même rapport à l'hymne national et au drapeau. C'est-à-dire que chez eux, c'est leur sang, mais limite dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est viscéral. Et nous, bon, quelqu'un qui critique la Marseillaise, qui critique le drapeau, ça va moins nous toucher. Non, non, il ne l'a pas critiqué, mais voilà, quand on touche... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est juste pour expliquer, hein, c'est pas pour défendre. C'est que si on... Pour un Américain, si on touche le drapeau, c'est comme si on touchait son propre enfant, quelque part. Voilà. Et c'est un peu ce rapport-là qu'ils ont par rapport à l'hymne et par rapport au drapeau. Est-ce que c'est exagéré ou pas? Ça leur appartient et c'est l'avis de chacun. Mais voilà, c'est juste pour expliquer aussi pourquoi ces réactions-là, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport, nous, en Europe, qu'aux États-Unis par rapport au drapeau.
Oui. Après, surtout quand ils voulaient expliquer leur mécontentement par rapport à cette manque de respect, entre guillemets, qui n'en est pas forcément, ils avaient toujours le même discours par rapport à les forces américaines, l'armée américaine, etc. Mais je suis bien d'accord que dans les forces armées américaines, il y a des Afro-Américains. Donc, en quoi ce serait un manque de respect par rapport aux forces armées, donc à leur sauveur en quelque sorte, puisque par rapport à les Américains ont aussi une attache assez forte sur leur protecteur. En quoi ce serait un manque de respect en sachant que Kaepernick ait eu un message par rapport aux personnes qui eux-mêmes font partie des protecteurs des États-Unis. Voilà, c'est juste ce passage que je n'ai pas compris, puisqu'ils sont même pas d'accord avec eux-mêmes en fait par rapport à leurs propres paroles. C'est ça, ils se contredisent. Voilà, c'est ce mot que je cherche depuis 30 secondes.
Bah, moi, je voudrais juste revenir sur ce que disait Théo tout à l'heure par rapport à son geste, le geste qu'il a fait quand il a posé le genou à terre. En fait, je pense que s'il aurait prévenu avant du geste qu'il l'aurait fait, personne ne l'aurait laissé faire. Ils l'auront laissé dans les coulisses comme quand ils ont, ils ne l'ont plus laissé revenir dans l'équipe. Et comme on disait, dans les États-Unis, le football américain, c'est le sport numéro un qui est reconnu par tous les Américains. Donc je pense qu'il s'était fait exprès, c'était réfléchi et qu'il s'attendait à ce qui allait lui arriver.
Je rejoins Drawa sur ce qu'elle a dit. Parce que je pense qu'avec les Américains, on peut utiliser la douceur, mais ça ne risque pas de faire autant d'impact que de faire les choses brutalement. Parce que, comme elle a dit, on ne l'aurait pas laissé, on aurait fait en sorte que ça n'arrive pas. Et je pense qu'il s'y attendait aussi, parce que c'était sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient le suivre et que ça allait avoir des représailles sur lui. Donc, je pense que c'était vraiment réfléchi son geste de le faire à la manière brutale. Peut-être que ça a choqué, mais voilà. Il y a un moment dans le reportage, il y a un monsieur qui a dit que les États-Unis, c'était un pays. Où il y avait l'expression libre. Donc, Donc comme il l'a dit, on n'a pas tous les mêmes avis, les mêmes préjugés. Donc, on ne peut pas trop... Enfin, on peut en juger parce que c'est quelque chose de public, très exposé. Mais après, c'est ses idées à lui qu'il défend, comme Nelson Mandela a défendu ses idées, comme Martin Luther King aussi qui a défendu ses idées. En 2017 aussi, il y avait dans la ville de Virginia... À Charlottesville, il y avait eu des manifestations contre, c'était des par rapport au Ku Klux Klan, qui est le directeur de cette organisation raciste, qui était auparavant aux États-Unis. Le directeur était lui-même un représentant politique. En gros, ça veut dire que ce qu'il a fait, ça choque, mais ils sont pas tout aussi blancs comme Donald Trump. Dans ses propos, il est très choquant. Il y a quand même une grosse inégalité. Je pense que ça aurait été quelqu'un, par exemple, un homme blanc qui défend une idée peut-être pas aussi correcte, mais vu que par sa couleur de peau, ça aurait moins eu d'impact sur lui qu'un homme noir.
En fait, Mina a raison par rapport au supporter qui a parlé de la liberté d'expression. Et je me posais la question, si ça aurait été un homme blanc, comme ils aiment le dire aux États-Unis, si ça aurait été un homme blanc qui aurait directement mis le genou à terre, est-ce qu'il y aurait eu autant de politique? Donc, si oui, est-ce qu'il aurait été critiqué ou pas? Enfin, comme ça touche la société afro-américaine, forcément, si ça aurait été un homme blanc, même si ça aurait été un homme blanc, des hommes afro-américains, des joueurs auraient rejoint le mouvement. Et peut-être qu'à partir de là, le problème aurait été le même. Ce qui fait, à mon avis, c'est surtout le fait que ce soit un Afro-Américain qui l'ait fait. Ils veulent s'exprimer. Comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, les représentants de la NFL restent des hommes de couleur blanche. Enfin, le fait qu'un Afro-Américain se représente, entre guillemets, ça touche dans le mauvais sens.
Je pense qu'il faut distinguer le côté afro-américain et le côté contestataire du drapeau et de l'hymne. Je pense que si c'était quelqu'un d'une couleur blanche qui avait fait la même chose sur un hymne, il y aurait eu scandale quand même. Après, est-ce qu'il aurait été autant poussé? Est-ce qu'il y aurait eu autant d'impact? Ça aurait fait scandale parce que je reviens encore une fois sur cette notion de patriotisme qui est liée aux États-Unis, ça aurait fait scandale. Après, voilà. Après, il y a l'autre partie qui effectivement, on en discute. Mais je pense que sur cette partie-là, oui, ça aurait fait scandale. Justement, je suis en train de rechercher un exemple. Il y a eu un exemple il n'y a pas très longtemps là-dessus d'une personne qui avait fait un geste de contestation pendant l'hymne et je ne l'ai plus. Donc si je le retrouve avant la fin de ce propos, je vous le dirai.
Alors, José, je voudrais intervenir. Martin Luther King, j'ai entendu cette référence. C'est dommage, le film ne fait pas référence à Martin Luther King. Là, on est dans des symboles forts. Le genou à terre, justement. Eh bien, c'est Martin Luther King qui est à l'origine de ce genou à terre. Et s'il est repris plus proche dans le temps, plus récemment, par ce sportif et ses autres sportifs, c'est aussi en référence à cela. Référence à un acte, on a dit, audacieux, courageux. C'est un acte politique. C'est d'abord et avant tout un acte de militant politique qui, à l'époque de Martin Luther King, luttait contre la ségrégation raciale, qui était une réalité quotidienne, avec un nombre de victimes incalculable. En 1965, effectivement, le jeune pasteur qui était Martin Luther King, face au symbole de l'Amérique, là on est dans du symbole aussi, un affrontement de symbole à symbole, c'est le drapeau, vous avez vu sur le stade, la place, tout le drapeau prend toute la surface, toute la superficie du stade. On n'imagine pas un seul instant ça en France, aujourd'hui, encore, ou dans d'autres pays. C'est que le drapeau américain, l'hymne américain, c'est des symboles de patriotisme. Le mot patriotisme, il est particulier aux États-Unis. Nous, on parle un petit peu de patriotisme ici en France, parfois de nationalisme, mais ça n'a rien de comparable avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Mais il faut remonter, effectivement, on parlait de guerre de sécession, il faut remonter, effectivement, sur toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. Donc là, c'est un acte, c'est pas simplement un acte audacieux et courageux, c'est plus fort, ça signifie encore plus. Et donc, effectivement, c'est un acte, c'est effectivement un affrontement. Il y a de fait un affrontement, toujours encore, hélas, aujourd'hui, aux États-Unis, entre les Blancs et les Noirs. Quand on parle de racisme en France, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose là-bas? C'est-à-dire que là-bas, on parle de violence pas seulement policière, on parle de violence raciale. Le nombre de victimes est là pour le démontrer. On parlait des événements de Charlotteville, mais la liste est longue aux États-Unis. On n'ose même pas imaginer que ça soit encore possible au XXIe siècle. Donc il y a une relation exacerbée entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Donc voilà ce que je voulais resituer, c'est cette notion de symbole. Martin Luther King, en fait, en 2018, je ne sais pas si vous le savez, on fête le 50e anniversaire de sa mort, là. En 2018. Donc ça réveille aussi un peu les consciences, parce qu'effectivement les sportifs n'ont pas oublié cet héritage-là de des générations qui les ont précédés. Et donc voilà, le patriotisme pour les Américains blancs, ça les choque, mais je pense que moi j'ai des amis aux États-Unis, qu'il y a un certain nombre d'Américains noirs qui ont été aussi également choqués. Pas de la même manière. Pourquoi? Parce que l'hymne national, le drapeau américain, il représente aussi tous ceux et celles qui sont morts pour les États-Unis d'Amérique. Et si vous faites le décompte de ceux et celles qui sont morts aux États-Unis ou sur les champs de bataille dans le reste du monde, vous verrez qu'il y a souvent plus de noirs que de blancs. Donc il faut aussi avoir ça en tête. C'est choquant pour ce que représente le drapeau, ce que représente l'hymne national aux États-Unis, dans un pays où effectivement le patriotisme se conduit à ce genre d'affrontement entre blancs et noirs, il faut le savoir. Maintenant, est-ce que c'est le seul pays où il y a du patriotisme à cette dose-là? Je ne crois pas. Il suffit de regarder en Chine, il suffit de regarder en Russie, allez faire un tour en Russie, vous allez voir que le rapport au drapeau et à l'hymne, là, il n'y a pas de problème de... En tout cas, pas dans les mêmes proportions entre noir et blanc en Russie, on est bien d'accord. Sauf que le rapport aux symboles et au respect des symboles, ils sont tout aussi vifs.
Je pense que poser un genou par terre, bah, ça ne va pas changer grand-chose. Et qu'il aurait dû faire quelque chose de plus grand. Un genou à terre, ça ne va rien changer, c'est tout. Ça s'est juste retourné contre lui, ça n'a rien changé, pour moi.
Alors, dans le fond... C'est pas tout à fait faux ce que tu dis, juste mettre un genou à terre en termes d'action, on peut faire mieux, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'à ce moment-là, c'était pas l'action en elle-même qui était importante, je pense, pour lui. C'était ce qu'on disait tout à l'heure, le symbole. Et en fait, pour interpeller les gens, au moins les appeler sur « Hey, les gars, il y a un problème », ça se joue d'abord sur les symboles pour attirer les gens devant le problème. Et les actions, c'est à la suite. Que ça vient, normalement.
Comme elle a dit Dinabou, je pense que oui, un genou à terre, ok, ça a fait passer le message, mais derrière ça, elle aurait dû, par exemple, faire un groupe de militants contre ça, enfin, vu qu'il est connu, il aurait pu jouer de sa notoriété bah, pour faire passer un message plus grand, avec des actions, des grandes actions qu'il aurait pu faire. Et c'est dommage qu'il n'en ait pas joué.
Oui, mais je pense aussi que si, par exemple, il serait parti plus loin, il aurait pu se faire tuer. Du coup, tu vois, c'est mieux qu'il mette juste le genou à terre, qu'il ne fait rien d'autre, parce qu'il a dû penser, il a mis le genou à terre, tu vois, il a fait peut-être susciter les esprits des gens, réfléchir les gens sur le problème. Mais s'il serait parti plus loin, c'est ce qui serait passé par la suite. Si les gens ne l'auraient pas vraiment attaqué, tu vois. Attaquer par rapport à sa famille, par rapport à ce qui est là aussi.
Ouais, après ça, c'est sûr, mais comme tu dis, s'il y aurait eu ça, bah là, ça aurait fait un scandale, du coup...
Ouais, mais le scandale, il aurait été quoi? Le fait qu'on l'attaque parce qu'il a dit, il a fait quelque chose de fort par rapport au symbole, ou alors on l'attaque parce qu'il s'est... Voilà, enfin...
Ouais, après ça...
Voilà, juste parce qu'on a attaqué sa famille. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qu'il y aurait
bah, comme on dit l'expression elle est libre aux États-Unis, c'est vrai que ça c'est peut-être un manque de respect par rapport en fait faut savoir faire la part des choses et les avis ils sont grave divisés du coup après, pour trouver le juste milieu c'est
la totalité des Sud-Américains ne comprennent pas son geste. Est-ce que si on l'aurait attaqué encore plus loin comme t'as dit, est-ce que ça aurait eu un impact en fait est-ce que ça aurait changé, est-ce que les gens auraient vu il s'est fait attaquer, c'est grave.
Oui,
ou alors...
ça aurait fait scandale. Je pense que ça aurait fait scandale parce que, en gros, ok, tu vas t'exprimer et par derrière, ton expression elle a été mal vue, du coup, on va te tuer. C'est, du coup, le pays, il y a un vrai problème par rapport à ça qu'il faut régler.
Donc, je suis d'accord avec elle. Je pense que la démocratie n'existe pas vraiment aux États-Unis puisque le moment où il a pu parler et donner son avis par rapport aux violences qui se passent aux États-Unis... envers les personnes. Donc, il n'y a pas vraiment de démocratie, puisque dès que Donald Trump il a appris la nouvelle de tous ces joueurs qui mettaient leurs genoux à terre, il a directement pris position et il a demandé qu'il se fasse virer sans vouloir savoir son opinion ou quoi que ce soit. Et dans tous les cas, ça s'est retourné contre lui, son geste, mais au moins ça a été courageux puisque c'était le premier joueur à avoir fait ça et à avoir donné son avis. Et comme il a beaucoup de notoriété et que ça a touché énormément de gens, surtout les footballeurs, ça a généré de la haine envers leurs fans. Mais il a été un peu loin. En s'attaquant, enfin, pas, il s'est pas attaqué, mais il a manqué un respect à. Oui, c'était une provocation, mais il a manqué un grand respect à l'Amérique en faisant ça, puisque le drapeau américain, c'est quelque chose de très important pour eux. Il aurait pu faire ça dans un autre contexte.
Mais le message serait peut-être pas passé.
Alors, beaucoup de choses ont été dites, là, c'est magnifique. Moi, il y a quelque chose qui m'a quand même choquée dans le film et qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, ce sont les réseaux sociaux et la violence qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux, puisqu'on l'a menacé de mort, du bûcher, enfin, c'est grave, c'est énorme. Et je pense que les personnes qui s'expriment comme ça sur les réseaux sont... tout à fait condamnable. Enfin, oui. C'est mon sentiment, je ne sais pas quel est le vôtre.
sont inhumaines.
C'est vrai que ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, c'était assez violent. On menace de mort quelqu'un. Et surtout, ils disent qu'il y a de la liberté d'expression en Amérique, mais moi, je pense que pas du tout, surtout par rapport en France. Il n'y a pas de liberté d'expression pour moi. Y a, même quand le président il prend parti pour une opinion, c'est qu'il n'y a pas de liberté.
Après, par rapport à quand on regarde Donald Trump, c'est très facile de savoir que la liberté d'expression, c'est seulement pour les gens de son côté, quoi. C'est. à partir du moment où on est dans son sens, oui, la liberté, elle est là. Enfin, oui, Donald Trump, il est beau, oui, d'accord, t'es droit, je veux bien que tu le dises, oui. Par contre, à partir du moment où on va le critiquer, ou alors que c'est des personnes contre lui qui agissent, non, là, il n'y a aucune liberté. C'est presque. Enfin, on va pas parler de dictature à ce niveau aujourd'hui, mais si on continue dans ce sens, on est bien parti pour. On s'en rapproche quand même au niveau des États-Unis là.
Moi, je pense que si les directeurs des clubs n'ont pas accepté ou n'ont pas donné de contrat, c'était pour pas être contre le président, puisque ça allait leur apporter beaucoup de problèmes. Donc, ils ont préféré l'éloigner, comme ça, ils n'ont pas de problème, mais ils continuent à faire de l'argent.
Après aussi, il faut se dire aussi dans le sport, il y a des contrats. Quand tu signes un contrat avec une équipe, il y a des contraintes, il y a des trucs que tu ne dois pas faire, des trucs que tu ne dois pas dire aussi. Ouais, voilà, il faut respecter envers le club. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui tourne mal envers le club, tu vas te faire têche directement aussi.
Oui, directement.
T'exclure directement.
Après, ce que je n'ai pas apprécié dans le discours du président actuel aux États-Unis, c'est qu'il a direct donné, comme Céline l'a dit, il a direct donné son avis sans s'expliquer. Enfin, il est directement passé à la privation, à la punition, mais sans se justifier sur le sujet. Par exemple, il aurait pu dire oui, c'est un manque de respect par rapport aux morts, aux valeurs du pays. Alors que là, directement, il a insulté. En vrai, il a insulté toutes les personnes qui le supportent. Donc franchement, c'est pas très. Si les politiciens aussi ils savent pas comment discuter avec leur pays, c'est sûr que le pays non plus il va pas aller dans leur sens correctement non plus.
Comme je disais tout à l'heure, c'est normal. Trump, à partir du moment où on n'est pas d'accord avec ce qu'il pense, il va direct partir au quart de tour et ça. En fait, je pense qu'il s'est surtout senti directement. Comme on a touché aux forces de l'ordre, il s'est directement senti visé, puisque c'est lui qui gère l'organisation. Donc forcément, si on touche aux forces de l'ordre, si on touche à ce qui est fait, ça va directement lui retomber dessus. Donc ça lui a clairement pas plu. Du coup, il a même pas cherché à comprendre. Il a été stupide comme d'habitude, quoi.
Ouais, en vrai, Copernic, je pense, en faisant ça aussi, il voulait. Je pense aussi que c'était un peu un message direct président, au gouvernement, pour leur dire qu'il y a des faits qui se font dans leur pays et ils ne font rien pour améliorer la situation.
Ça a été une attaque directe, en fait.
Oui, voilà.
Ce qui, et vous l'avez très bien dit, ce qui a choqué aussi les gens, c'est que par définition, le sportif, le club de sport, c'est apolitique. C'est-à-dire que ces clubs-là, non seulement, vous l'avez dit aussi, ils appartiennent à des propriétaires. Les propriétaires de franchises aux États-Unis, comme on les appelle, c'est des personnes qui sont dans l'économie, qui ont des entreprises, en lien parfois avec le gouvernement ou non. Et donc ces clubs-là doivent être apolitiques, les sportifs aussi. C'est parfois même marqué dans les contrats, vous l'avez dit aussi. C'est pour ça que les gens n'ont pas compris, n'ont pas accepté aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de position possible. On paye cher un joueur, on le paye pour jouer, on ne le paye pas pour parler. Les seules choses sur lesquelles il doit s'exprimer, c'est sur son match, sur son jeu, etc. Donc de fait, ça n'a pas été compris, et de tout temps ça n'a pas été compris quand il y a des prises de position comme ça de la part d'artistes ou de sportifs. C'est parfois plus compris de par les artistes parce que certaines œuvres, chansons, cinématographiques prennent position, racontent des histoires. Là, il n'était pas question de ça, il était juste question d'une prise de position. Donc ça a pris sûrement un petit peu tout le monde de court, et ça a pris encore plus tout le monde de court quand ce mouvement-là s'est un petit peu propagé. Voilà, on leur demandait pas ça, on les paye pas pour ça, donc ils n'ont pas à s'exprimer là-dessus, surtout si c'est pour, selon les personnes qui reçoivent ce message, manquer de respect à beaucoup de personnes, notamment les vétérans, toutes les personnes qui sont mortes pour ce pays, etc.
Je pense en prenant cette prise de décision, il savait que, en gros, je veux dire qu'il a sacrifié sa carrière. Comme tu as dit, il a signé des contrats, il devait s'y attendre, donc il a sacrifié sa carrière pour cette cause-là. Enfin, je trouve ça vraiment courageux de sa part. de sacrifier le reste de sa vie, alors qu'il, comme ils l'ont dit dans le reportage, c'était un très bon joueur, tout ça. Il avait une longue carrière derrière lui, mais il l'a sacrifié parce que cette cause, je pense qu'elle lui portait plus à cœur. Et au moins, il a réussi à faire passer son message un minimum.
Quand on parle des symboles tout à l'heure, où je faisais référence à Martin Luther King, en effet, c'est plus qu'un acte de courage pour le coup. C'est une manière aussi de rappeler ce qui s'est passé les 60, 70 dernières années aux États-Unis. Parce que son geste, ça interroge les États-Unis d'Amérique, mais ça interroge le reste du monde entier. Est-ce que la ségrégation sociale, la ségrégation raciale existe ou non encore aujourd'hui dans les années 2000 au 21e siècle? C'est ça que son geste rappelle aux États-Unis d'abord, à l'ensemble des Américains, mais au reste du monde également. On ne prend pas la mesure que, normalement, le combat de Martin Luther King, il s'agissait d'un combat politique. Son genou à terre était courageux aussi. C'est le premier à l'avoir fait. Et ça a débouché sur quoi? Sur la fin de la ségrégation raciale aux États-Unis, normalement. Parce que c'était le combat pour les droits civiques aux États-Unis. Lui et d'autres, et des milliers, voire des millions de personnes se sont mobilisées dans ces années-là. On se rend compte que dans les années 2016-2018, eh bien que ce combat, il est encore à mener. Que même s'il y a eu des progrès, il reste encore énormément de violences raciales aux États-Unis. Donc son combat, son geste signifie ça aussi. Alors oui, c'est très courageux, parce que d'autres sportifs ne l'ont pas fait, et d'autres Américains, noirs américains, ne l'ont pas fait non plus. Pourquoi le faire dans un sport national comme celui-ci? C'est une vitrine formidable sur le plan médiatique. Ça a été médiatisé, ça a été vu immédiatement. S'il l'avait fait à l'occasion d'une conférence de presse ou dans une autre occasion, son geste n'aurait eu aucun sens et n'aurait même pas été signifié en réalité. Donc là, oui, c'était calculé de sa part, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut le condamner pour ça? Et surtout de la manière que les États-Unis le condamnent, et surtout le président Trump, avec les propos, vous avez entendu ces propos. C'est des propos...
injurieux.
Mais non seulement injurieux, mais c'est normalement pas les propos d'un président des États-Unis d'Amérique. C'est énorme les propos qui est la réaction de Trump. Il a juste dit, j'avais noté, au moment où ça s'est produit, il avait estimé qu'un stade n'est pas un endroit pour protester. Ça, c'est la première réaction. Une fois qu'il a eu ces injures, comme on les a entendues, et il a dit d'autant plus que les fans payent tellement d'argent pour regarder un match et s'amuser. Donc oui, normalement, le sport, parce que on a eu le même débat au niveau des Jeux Olympiques. Rappelez-vous, dans le monde entier, chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, il y a des tentations de politiser, d'avoir des actes politiques à l'occasion des Jeux Olympiques. Et pendant très longtemps, les valeurs de l'olympisme interdisaient justement, en disant le seul endroit qui doit être préservé de la politique, ce sont justement les rencontres sportives. Donc Trump, il a ça aussi en tête et en souvenir.
C'est dommage que pour un joueur, on lui demande juste de jouer et de lui, en gros, on lui dit faut que tu joues et tu tais, alors que c'est un individu, il a le droit à son expression comme tous les autres. Ça reste, pour eux, ils montrent le pays comme si c'était une démocratie, comme Théo l'a pu le dire tout à l'heure. Ça devient Donald Trump, il préside le pays, ça devient de plus en plus. Ça fait plus référence à une dictature qu'autre chose.
En même temps, si on veut être honnête et sincère, non, les États-Unis d'Amérique sont encore une démocratie. Alors, avec ses défauts, avec ses dérapages, surtout les dérapages de son président, d'abord, on peut tous le regretter, sauf que Donald Trump a été élu démocratiquement et ses opposants ont hélas perdu, on pourrait dire. Voilà, c'est la réalité. Il faut se souvenir aussi que ce qu'on débat là en ce moment, ça se passe quelques années après la gouvernance de Obama. Les années Obama auraient dû peut-être agir davantage sur cette relation conflictuelle permanente, cette violence raciale. Est-ce qu'il y avait moins de violence raciale à l'occasion, pendant les deux mandats d'Obama? Je ne crois pas. Est-ce que la question raciale a progressé pendant les années Obama? Je ne le crois pas. Donc, c'est pas seulement les années Trump, c'est beaucoup plus ancien.
Oui, oui.
Et ça continue, quels que soient les présidents, hélas.
C'est pas que ça n'avait pas progressé, c'est que les personnes étaient racistes. Du coup, comme c'était un président noir, ils se sont plus cachés, donc ils n'ont pas dit grand-chose. Par contre, du coup, maintenant que Trump est président, ils se lâchent plus, ils savent qu'ils peuvent maintenant, ils peuvent s'exprimer par rapport à leurs opinions, puisque lui sera d'accord dans un sens. Oui, lui aussi est raciste dans tous les cas.
Donc, ils vont dans ce sens. Hein. Oui,
à un moment, ils ont dit dans le documentaire que l'Amérique avait choisi son président. Donc, en vrai, ça veut dire que les citoyens américains, il y a une grande majorité qui est dans les mêmes convictions que leur président.
Il y a eu beaucoup de preuves comme quoi les votes avaient été truqués parce qu'ils ne voulaient pas d'une femme au pouvoir en fait.
Ils
voulaient juste que, comme ils avaient déjà eu un président noir, ils ne voulaient pas augmenter les choses avec une femme. Ils ne voulaient pas à la présidence.
De toute façon, je pense que depuis les années Mandela et Luther King, ça n'a pas mieux évolué aux États-Unis.
Non, du tout.
Donc, malgré les différentes choses qui se passent, graves, choquantes, l'État, il fait rien pour remédier à ça.
Après, je voulais revenir sur ce qu'elle avait dit par rapport au fait que les personnes... Le fait que ce soit un sportif qui parle... Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour énormément de personnes, un sportif, c'est fait pour courir ou alors faire ce qu'il a à faire. Enfin, c'est pas censé avoir un cerveau, c'est surtout ça que... C'est assez dur dit comme ça, mais c'est vrai que dans les pensées des gens, un sportif, à partir du moment où il fait son boulot, il court sur le terrain, il rapporte de l'argent à l'écran, il rapporte des téléspectateurs, il n'a pas à dire quelque chose en fait. Il a juste à courir et fermer sa bouche.
Oui. À ce moment-là, je pense qu'il ne se sentait plus comme sportif, mais comme citoyen américain, afro-américain.
C'est pour ça qu'il a négligé sa carrière, pour ça.
Voilà. Et puis on parlait de symboles aussi, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte aussi de l'impact du football américain aux États-Unis. C'est quand même l'événement le plus regardé au monde, parce que quasiment 80-90% des Américains sont devant leur télé devant la finale du Super Bowl, c'est-à-dire que la vie s'arrête pendant la finale du Super Bowl. Les pubs qui passent à la télé, donc même pendant le jeu, sont payés par les marques, mais des millions et des millions et des millions, on bat des records. Le show du Super Bowl, c'est un vrai show. Alors on le connaît, nous, par les scandales avec le sein de Janet Jackson ou d'autres choses comme ça, mais c'est des shows énormes qui coûtent des millions et des millions. Donc c'est aussi de le faire sur un parquet de NBA ou sur une glace de NHL. Bon, sur une glace de NHL, ça fait un peu froid aux genoux, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est juste pour la plaisanterie, mais voilà. Là, c'est quand même symbolique. Le football américain, on ne se rend pas compte, nous, parce que pour nous, les matchs, ils durent 3 heures, c'est long, on s'ennuie. Mais pour eux, là-bas, c'est le sport. Nous, le foot à côté, c'est rien. C'est rien. C'est ça ou aussi c'est pas c'est vraiment une autre culture et il faut s'immerger dans cette culture pour entre guillemets hélas comprendre. Juste un petit mot de la fin parce qu'on va falloir qu'on continue, mais on continuera nous après en off de discuter là-dessus. Mais le mot de la fin.
La question après de fin c'est poser la question, est-ce qu'il a vraiment fait, est-ce qu'il a bien fait ou si c'était bien de le faire ou pas.
Donc on a du courage.
Audacieux aussi.
Audacieux. Allez, en un mot.
Courage, audacieux, héroïque même.
Je pense que ça aura servi à quelque chose si par exemple vos propres enfants dans leur livre d'histoire, au lieu d'avoir ces athlètes américains à Mexico avec leur gant noir levé, ils auront la photo de Colin Kaepernick à un moment dans leur livre d'histoire. Ça a vraiment servi à ça et à continuer à faire en sorte que cette question elle soit encore centrale et d'actualité, même en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne saura pas.